on va continuer dans la répression et la coercition avec la pénalisation croissante, enfin, disons grosso modo, tout le processus qui vise à criminaliser les personnes étrangères dans notre pays. Raphaël.
Merci. Alors, moi, je vais parler plutôt des aspects, on va dire, de droit pénal et de procédure pénale. Alors, j'ai une conviction, c'est que le simple fait d'être étranger face à l'institution judiciaire et face au système carcéral apparaît, joue comme une circonstance aggravante. Et je vais essayer de le démontrer rapidement pour commencer. Et ensuite, je vais essayer de montrer en quoi la nouvelle loi Collomb aggrave encore plus le fait que les étrangers sont font face à une situation qui est aggravée par rapport à des personnes qui ne sont pas étrangères. Alors, il y a eu un certain nombre de travaux de sociologie qui sont tout à fait intéressants sur, qui ont comparé la situation de personnes étrangères et la situation de personnes françaises devant les tribunaux, et notamment en matière de comparution immédiate. Et il y a un sociologue qui s'appelle Thomas Léonard, qui a fait un travail remarquable et qui a élaboré une notion qui est très parlante, qui est la notion de casier judiciaire virtuel. C'est-à-dire que pour lui, les étrangers, alors même qu'ils ont un casier judiciaire vierge, apparaissent aux yeux de la justice comme ayant un casier judiciaire virtuel qui va conduire les tribunaux à prononcer à leur encontre plus souvent des peines de prison ferme et plus souvent des peines de prison ferme avec des mandats de dépôt. Voilà, parce qu'on sait que lorsqu'on se retrouve devant la justice, le fait d'avoir un casier judiciaire joue vraiment dans la décision des juges de vous envoyer ou pas en prison. Et même si à situation égale, hein, c'est-à-dire un Français avec un casier vierge et un étranger avec un casier vierge, ce sociologue a montré que les étrangers allaient plus souvent en prison, comme s'ils avaient donc un casier judiciaire virtuel en plus de leur casier réel. Et donc moi, pour prolonger un peu ce résultat de la recherche sociologique, je pense que le fait d'être étranger joue comme une circonstance aggravante. Alors on sait qu'en droit, dans le code de procédure pénale et dans le code pénal, il y a un certain nombre de délits qui sont aggravés par exemple, la circonstance de la commission de l'infraction. Évidemment, il n'y a aucun endroit et aucun article du code qui dit que le simple fait d'être étranger en ayant commis ce délit aggrave la peine, évidemment, parce que sinon ce serait une loi qui serait discriminatoire, donc c'est absolument impossible. Par contre, il existe dans le code pénal et dans le code de procédure pénale un certain nombre de mécanismes qui ne sont pas discriminatoires dans le texte, mais qui, à travers l'usage que peuvent en faire les acteurs, et notamment les parquets, les procureurs de la République, peuvent se révéler discriminatoires. Et en fait, c'est dans le cadre de ces dispositifs qui laissent un champ libre, finalement, aux procureurs de la République, que se logent des effets de discrimination qui vont aggraver la situation des étrangers. Et ça se voit au stade de l'engagement des poursuites, avant le procès, dans l'attente du procès, et puis ensuite au stade du procès. Alors, au stade de l'engagement des poursuites, il y a un principe de procédure pénale qui est bien connu, qui est celui le principe de l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire que le procureur de la République peut, sans justifier, décider s'il renvoie ou pas une personne devant le tribunal ou s'il classe son dossier sans suite. Et effectivement, ce pouvoir, finalement, qui est quasiment arbitraire, peut permettre à ce qu'il y ait des effets de discrimination qui vont aggraver la situation des étrangers, qui vont faire que les étrangers vont se retrouver plus souvent devant les tribunaux et plus souvent dans le cadre de la procédure de comparution immédiate qui, comme vous le savez probablement, aboutit plus souvent que dans le cadre d'autres procédures à de la prison ferme effectivement réalisée, c'est-à-dire avec un mandat de dépôt. Ensuite, dans l'attente du procès, c'est-à-dire que si vous êtes convoqué à une date, etc., les étrangers vont se retrouver plus souvent en détention provisoire dans l'attente du procès, parce qu'il y a toujours cette idée que l'étranger est quelqu'un qui pourrait prendre la fuite, même s'il a la double nationalité. Il y a ce truc qui est là, vous êtes binational, mais ah oui, mais donc vous avez une autre nationalité, donc vous pourriez partir. Donc pour éviter que vous partiez, on va vous mettre en prison. Et ça, c'est un argument qui est systématiquement employé tous les jours, dans tous les tribunaux de France, à l'égard de personnes qui, étrangères, sollicitent leur remise en liberté. C'est tout à fait, évidemment, regrettable. Enfin, à l'audience, le fait d'être étranger joue aussi, aggrave encore la situation de la personne, notamment à travers la question de la traduction et de l'interprétariat. C'est-à-dire qu'il y a une vraie difficulté avec ça, une vraie difficulté de compréhension, où lorsque l'avocat parle une langue qui est la langue du prévenu, comme l'anglais, ça arrive, c'est pas très fréquent, mais ça arrive, on se rend compte qu'il y a des véritables problèmes de traduction. Donc sur l'anglais, nous on est capable de voir, ah ben oui là c'est mal traduit, et on est capable de le signaler, mais sur des langues qu'on ne connaît pas, comment fait-on pour savoir que c'est correctement traduit et qu'il y a une réalité, voilà, quelque chose qui est réel, une transmission qui correspond réellement à ce que dit la personne. C'est quelque chose d'effrayant, on va dire. Sur l'anglais, je défendais un type qui est un Californien, qui était venu à Paris et qui avait participé à une manifestation à Paris. Et à l'audience, on lui lit la prévention, on lui dit « vous êtes accusé d'avoir fait ceci au cours d'une manifestation ». Et l'interprète traduit en disant « manifestation ». Et non pas en disant « demonstration ». Et donc, en fait, lui ne comprenait pas. Et lui, quand il disait « j'étais à la manifestation », il disait en anglais « I was in the demonstration ». Et l'interprète traduisait « ah ben, monsieur dit qu'il était à une démonstration ». Et donc, évidemment, personne ne comprenait rien. Alors là, c'est l'anglais, on comprend tous. Qu'est-ce que c'est quand c'est du bulgare, du chinois, ou voilà. On est totalement perdu. Et alors, je rebondis sur ce qu'a dit Camille tout à l'heure par rapport à la vidéo-audience. Alors, la vidéo-audience, c'est quelque chose de scandaleux. Alors, tu as parlé de justice d'exception, justice exceptionnelle. Ça vise l'étranger. Malheureusement, la vidéo-audience se généralise aussi pour l'ensemble des justiciables en matière pénale. Et pour nous, ça cause des véritables difficultés. C'est-à-dire que j'ai un client qui est en prison et j'ai un juge qui est au tribunal. Est-ce que je vais au tribunal ou en prison ? C'est-à-dire que si je vais au tribunal, je perds la possibilité d'avoir avec mon client des interactions, on va dire, corporelles. Un avocat peut très facilement écraser le pied de son client quand il raconte une bêtise et qu'il faut qu'il se taise. Voilà, ça, à travers une vidéo, je ne peux plus le faire. Et ça pose une véritable difficulté. Et si par contre, je fais le choix d'aller uniquement en détention et pas avoir le juge, c'est-à-dire que je ne peux plus avoir de dialogue informel avec le magistrat. Et donc, j'ai un contact privilégié avec mon client. Et alors ensuite, l'interprète, il fait quoi, lui ? Il va où ? Parce que si l'interprète il va au tribunal, ben la qualité de la traduction va être à mon avis encore aggravée. Sans compter que comment je vais faire pour m'entretenir de façon confidentielle à travers une vidéo. Bon, voilà, vous avez compris les difficultés. Voilà, ça c'est un peu le topo général et ma conviction sur la situation de l'étranger. Maintenant la loi Collomb. Alors la loi Collomb, elle aggrave cette situation sur un certain nombre de points. Je vais y venir. Mais avant ça, je voulais juste faire un petit parallèle avec ce qu'avait dit Laurent tout à l'heure sur les ICTF, les interdictions de circulation sur le territoire français, qui s'appliquent donc aux ressortissants européens. Et il vous a dit tout à l'heure que le préfet pouvait les adopter lorsque la présence de l'étranger constitue une menace à un intérêt fondamental de la société française, voilà, alors de la nation. Bon. Moi, je ne sais toujours pas ce que c'est qu'un intérêt fondamental de la société française, et j'ai eu quelques dossiers dans ces situations-là, et je vais vous donner des exemples. Ce sont en général des dossiers de personnes qui sont arrêtées pour des infractions pénales, mais qui ne vont pas être poursuivies au pénal devant un tribunal correctionnel, mais vont être placées en rétention et en vue de leur reconduite à la frontière à la suite de cette infraction pénale qui va elle-même être classée sans suite. C'est-à-dire qu'on voit comment, à travers ce mécanisme de l'ICTF, on utilise finalement la mesure administrative comme un moyen de substitution à une justice pénale. Enfin voilà, parce que je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Donc par exemple, pour les Roumains, on vous a parlé, j'en ai défendu un certain nombre qui avaient été arrêtés dans la rue parce qu'ils organisaient des jeux de bonneto. Vous savez, voilà. Donc, et donc on va au tribunal administratif, puis on dit, écoutez, jouer au bonneto dans la rue, ce n'est pas une menace à un intérêt fondamental de la société française. Et on dit, eh ben moi j'aimerais bien que le préfet m'explique quel est l'intérêt fondamental de la société française, qui, machin, etc. Et donc le juge un jour, hein, puisque j'ai dit ça au président, le président me répond un jour, ah oui mais le non-respect des lois de la République, c'est une menace à un intérêt fondamental de la société française. Mais dans ce cas-là, tout, je veux dire, brûler un feu rouge, c'est ne pas respecter la loi de la République. Bon bref, vous m'avez compris, la deuxième situation que j'ai eue récemment, c'était un Allemand qui a été placé en garde à vue suite à un mouvement politique parce qu'il était rentré avec un certain nombre d'autres personnes dans le lycée Arago, place de la Nation, il y a quelques mois, parce que des personnes protestaient contre une réforme de l'accès à l'université. Il se trouve que cet Allemand vivait en France depuis longtemps et qu'il avait obtenu des diplômes de philosophie dans les universités françaises. Et cet Allemand a été interdit de revenir en France pendant 2 ans. Enfin bon, voilà, c'est pour donner une idée. Donc, rentrer dans un lycée dans le cadre d'un mouvement politique est considéré par l'administration comme une menace à un intérêt fondamental de la société française. Maintenant, la loi Collomb. Alors, la loi Collomb, elle aggrave la situation des étrangers, tout d'abord sur la question des ITF. Alors, les ITF, c'est les interdictions judiciaires du territoire français qui sont des peines, c'est-à-dire c'est des sanctions pénales qui peuvent être prononcées à titre principal ou accessoire à l'égard de personnes qui ont commis un délit, un crime ou un délit qui est préalablement déterminé par la loi. Donc il faut que, pour tel délit, on prévoit expressément que l'ITF puisse être prononcée par les tribunaux pour qu'elle le soit. Donc c'est une forme de garantie. La loi Collomb multiplie le champ d'application des ITF. C'est-à-dire qu'elle donne une liste de délits, de nouveaux délits, pour lesquels, avant cette loi, ce n'était pas possible de prononcer des ITF, et pour lesquels, désormais, c'est possible. Et le curseur, on va dire, se réduit. C'est-à-dire qu'auparavant, c'est un peu fastidieux parce qu'une liste, elle est un peu longue, mais en gros, la philosophie de ces modifications, c'est l'idée que, même pour des infractions moins graves qu'auparavant, puni d'une peine d'emprisonnement moins longue, on doit pouvoir permettre aux tribunaux de prononcer des ITF. Donc en gros, l'idée, c'est de renforcer la possibilité de prononcer des ITF à l'égard des étrangers. Et effectivement, pour obtenir le relèvement, comme on dit, de l'ITF, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, parce que les conditions, c'est que l'étranger, il doit être soit incarcéré, soit assigné à résidence, soit résider à l'étranger. Donc ça veut dire qu'une personne qui a purgé sa peine et puis qui mène sa vie à l'extérieur et se trouve en situation irrégulière avec une ITF sur le dos, ne peut pas en demander le relèvement. Et on se retrouve avec des situations totalement absurdes où moi, il m'est arrivé d'avoir à défendre quelqu'un qui, alors qu'il était en détention, avait réussi à introduire un recours aux fins de relèvement de l'ITF, mais au regard des délais d'audiencement devant les tribunaux, ça avait mis tellement de temps que la date d'audience pour savoir si on pouvait relever ou pas son ITF avait été fixée, vous l'avez compris, après sa sortie de prison. Et au moment où le tribunal a statué, il a dit « Ah ben votre requête n'est pas recevable, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes plus détenu ». Voilà, donc, et ça c'est quelque chose, c'est une jurisprudence qui est à peu près claire donc, sur ce point. Donc voilà, il y a une véritable difficulté avec cette peine complémentaire. Deuxième point, les OQTF en détention. Alors, on sait que avant cette loi, les OQTF, quand on vous notifiait une OQTF en détention, sans délai de départ volontaire, vous aviez un délai de recours de 48 heures, et ensuite le juge devait statuer dans un délai de 72 heures, ce qui est extrêmement bref, et ce qui cause des difficultés considérables pour pouvoir effectivement former le recours contre l'OQTF, parce que quand on est en prison, tout est plus long. Pour obtenir un document, pour faire passer un papier au greffe, pour envoyer un courrier, pour contacter un avocat, un point d'accès au droit. Voilà, c'est infernal. Donc l'OIP a fait une QPC devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a dit que ce dispositif était contraire au droit à un recours juridictionnel effectif. Et finalement, c'est arrivé, je crois que la décision du Conseil constitutionnel est de cet été, et la loi Collomb était déjà dans les tuyaux, et donc c'est lorsque ça arrive au Sénat ou à l'Assemblée nationale qu'on rajoute un amendement pour répondre à cette décision du Conseil constitutionnel, amendement qui va quasiment rien changer sur la possibilité d'introduire un recours, mais qui par contre va donner plus de pouvoir d'une certaine manière, va faciliter la situation des tribunaux qui ont à statuer sur ces OQTF. Parce que par exemple, la loi va prévoir que... Alors, il faudrait que je reprenne le texte exactement, ce serait plus simple, mais que, en gros, si jamais le tribunal est saisi mais n'a pas encore statué sur le recours formé par l'étranger contre l'OQTF et que l'étranger doit être libéré avant que le tribunal n'ait statué, il faut que le tribunal soit informé pour qu'il statue rapidement, d'une certaine manière, avant que l'étranger soit libéré. Le but du jeu étant, vous l'avez compris, que la décision du tribunal sur la légalité de l'OQTF intervienne avant la fin de la peine de prison de l'intéressé, pour qu'il puisse effectivement être reconduit à la frontière après sa peine de prison, sans passage par la rétention et sans période de liberté. Voilà. Dernier point, le fameux délit de solidarité. Donc on sait qu'on a eu la décision du Conseil constitutionnel dans le dossier de Cédric Herrou en juillet dernier, qui a instauré le principe de fraternité et qui a censuré partiellement l'immunité humanitaire prévue par le CESEDA. La nouvelle loi réintroduit une immunité en prenant acte de sa décision du Conseil constitutionnel en disant l'immunité est valable pour l'aide au séjour irrégulier, mais également pour l'aide à la circulation. Mais pas pour l'aide à l'entrée sur le territoire français. Ce qui peut poser certaines difficultés, et ce qui est quand même une lecture finalement à minima, on aurait pu aller plus loin sur la question de l'abrogation du délit de solidarité. C'est-à-dire que quand on dit « délit de solidarité est abrogé », c'est pas tout à fait vrai. Hein. Voilà, il n'est pas abrogé, et je sais qu'il y a des difficultés. C'est-à-dire que l'aide à l'entrée irrégulière sur le territoire français est aussi l'aide à l'entrée irrégulière sur le territoire d'un autre État. Quand je dis c'est un autre État Schengen, mais aussi un autre État membre de la Convention de Palerme, enfin bref, mais ça peut être par exemple l'aide à l'entrée en Angleterre. Et pour l'avoir plaidé, je sais qu'il y a des situations, notamment dans le Calaisie, où des personnes peuvent aider des étrangers à quitter la France pour aller en Angleterre dans un but totalement humanitaire, désintéressé et d'une certaine manière aussi pour aider et pour soutenir la dignité de ces personnes qui font le choix de partir en Angleterre. Voilà, et parfois ils sont aidés par, des personnes en France. Voilà, donc ces personnes devraient à mon sens aussi bénéficier de l'immunité humanitaire. C'est pas le cas parce que la nouvelle loi ne l'a pas prévu. Je vous remercie.